6h34 minutes, on a de la très belle visite pour commencer la journée aujourd'hui. Pas habitué le trio de Rage Against le matin d'accueillir quelqu'un en studio à cette heure-ci. Maïté Blanchette Vézina est avec nous, qui est députée de Rimouski. Elle est la ministre des Ressources naturelles et des Forêts au Québec. Madame Blanchette Vézina, vous êtes très certainement une lève-tôt pour être avec nous à cette heure-là. Merci d'être là.
Oui, j'ai une lève-tôt, mais ça me fait plaisir d'être en ordre avec vous.
On n'est pas habitué. Vous allez pouvoir profiter un petit peu de la vue qu'on a de nos studios, le lever du soleil sur la belle ville de Québec.
Il n'y a rien de plus beau que le matin, moi, je trouve. Fait que,
vous avez tellement raison.
De lever.
C'est vraiment le fun de vous accueillir ce matin. Surtout pour parler d'un grand projet de loi, de parler d'une modernisation du régime forestier. Vous avez présenté hier ce projet de loi-là. Pourquoi on a besoin de ce nouveau régime dans le monde forestier maintenant?
C'est une excellente question. En fait, probablement que vos auditeurs, les gens qui écoutaient, ne savaient pas nécessairement ce que c'est un régime forestier. Mm-hmm. C'est la façon dont on gère nos forêts au Québec. C'est un patrimoine collectif qui est important. C'est une richesse collective, une richesse qui sert à beaucoup d'utilisateurs. En ce moment, on gère de manière durable. Donc, on a un forestier en chef qui est notre vérificateur des forêts, qui s'assure qu'on attribue des droits qui ne sont pas qui ne vont pas trop loin. Donc, on s'assure de récolter les intérêts de notre forêt et non le capital. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne en ce moment.
Okay.
Beaucoup d'usagers dans cette forêt, difficulté d'un contexte économique très grand, volonté du gouvernement aussi d'atteindre des cibles de conservation de biodiversité, 30 % du territoire d'ici 2030. Mais c'est partager la forêt. Donc, la forêt qu'on conserve, c'est pas la forêt, on ne peut plus l'exploiter d'un point de vue économique. Mais il y a 57 000 personnes qui travaillent directement dans l'industrie forestière au Québec, des emplois qui sont payants dans nos régions. Puis c'est une ressource dont on a besoin pour les produits manufacturiers, pour la construction. Alors, c'est une ressource qui est essentielle à notre quotidien, le bois. Donc, dans cette volonté-là d'à la fois conserver du territoire, d'à la fois de continuer d'avoir des activités qui sont la chasse, la pêche, les pourvoiries, la sériculture, mais aussi de conserver cette activité économique si importante au Québec, on a décidé de faire des changements qui sont importants. Avec ce projet de loi-là, on vient introduire des concepts de zonage. Au lieu d'essayer de faire tout partout, c'est très difficile en ce moment puisqu'on offre peu de prévisibilité aux entreprises. Elles ont besoin de prévisibilité dans un contexte qui est très incertain. On va venir pour les prochaines années sécuriser du territoire pour l'activité économique, mais sécuriser du territoire aussi pour la conservation puis les autres activités sur le territoire.
C'est-tu aussi simple, là, je vulgarise peut-être puis vous pouvez me corriger, c'est-tu aussi simple que, et puis je prends vraiment, l'Abitibi sera pour la coupe, le lac Saint-Jean sera pour les loisirs. Et, c'est pas aussi simple que ça. Là.
Non, pas du tout, en fait. C'est
tellement dans le champ.
Ce sera pas une région. Ouais. En fait, on va vraiment penser régionalement. Le concept qu'on vient introduire, c'est le concept de triade. Alors, chaque région pourrait avoir ces trois zones-là, auront ces trois zones-là. Et il y aura un aménagiste forestier régional qu'on va nommer. Donc, ça fait partie des dispositions qu'on met en place avec le projet de loi. Régionalement, il y aura une analyse qui sera faite sur quelles seraient les portions du territoire qui devraient être réservées pour la foresterie, pour la sériculture dans certaines régions, pour d'autres activités, pour la conservation également. On a le plan nature qui a été lancé par mon collègue Benoît Charrette, pour beaux projets d'aires protégées qu'on souhaite mettre de l'avant aussi. Fait que pour y arriver, on veut faire plus avec moins d'hectares, c'est-à-dire augmenter le rendement de la filière forestière sur une plus petite portion du territoire pour sécuriser, dans le fond, l'approvisionnement économique, mais aussi s'assurer qu'on fait mieux avec moins.
Dans mes lectures que je faisais, je voyais qu'une zone qui va être identifiée justement forestière en priorité va le demeurer pendant 10 ans. Est-ce que c'est justement là votre principe de prévisibilité, de dire, regardez, vous avez cette zone-là dans cette région-là à exploiter, ça va vous permettre justement de planifier votre matériel puis vos commandes?
Vous avez très bien compris. En fait, on va allonger aussi le délai. En ce moment, on donne des droits sur 5 ans. Pour une entreprise, si elle souhaite investir, 5 ans, c'est pas suffisamment long. Puis on revient aussi rapidement dans des cycles de consultation. C'est un horizon qui était trop court.
Ces consultations-là étaient-elles trop difficiles aussi versus les mouvements environnementaux?
c'est pas que le processus était trop difficile. Il y en avait beaucoup. Ça, je revois le processus. D'ailleurs, dans le projet de loi, on vient alléger énormément la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier parce qu'il y avait beaucoup de consultations. Plusieurs étapes qui étaient faites par le ministère, en tout respect des gens qui travaillent dans la fonction publique, qui n'étaient pas nécessairement sur le terrain. Fait que parfois, c'est des gens qui revenaient, c'est une nouvelle personne. On recommence un processus. Les gens avaient oublié qu'on avait fait des consultations. Puis se perdait dans le processus. Moi, quand je suis arrivée, on m'a donné un apron. J'avais moi-même la misère à comprendre comment on faisait les choses. Il a fallu qu'on me vulgarise. Puis c'est pas parce que je comprends pas. Là,
Non.
Mais c'est parce que c'est très complexe. Donc, on a revu ce processus-là simplifié. Puis le concept de zone va nous permettre ça aussi, d'avoir une zone qui est attitrée. Mais on sait que c'est ça qui va être fait comme activité sur cette portion de territoire-là. Puis ça va aider l'industrie, mais ça va aider les autres usagers aussi. Puis c'est pas une cloche de verre, en fait, pour l'industrie. Mm-hmm. On va pas nécessairement venir faire une culture intensive. Ça va demeurer des forêts où on pourrait chasser entre-temps, par exemple. Mais la fonction, la vocation première, prioritaire, va être éventuellement d'une récolte. Puis un reboisement aussi. C'est très important. Alors, le reboisement va venir aussi, va être rapproché des activités de récolte, planifié en amont. Ça, c'était quelque chose dans lequel il y avait des économies importantes, autant pour le gouvernement que pour la société québécoise, puis la filière forestière, rapprocher les activités de reboisement de la récolte. Ça va rassurer les groupes aussi. Il y a des engagements importants qui vont devoir être pris par les entreprises forestières pour s'assurer qu'elles respectent leur licence d'aménagement durable.
D'ailleurs, Mme Blanchette-Vézina, j'allais vous demander, depuis hier, là, depuis l'annonce du projet de loi bien accueilli par les gens, êtes-vous inquiète d'un backlash écologique?
Ah, pas du tout. En fait, plusieurs scientifiques nous nomment que si on souhaite faire de la conservation, continuer d'avoir des activités économiques dans la forêt, on doit mieux penser les choses. Puis c'est ce qu'on vient faire. Ce principe de triade-là, c'est pas moi qui l'ai inventé dans mon salon. On le réfléchit et ça se fait déjà sur certains grands détenteurs de droits forestiers ou de patrimoine forestier, des terres privées. De faire ces trois concepts-là à même une zone, ça permet de faire de la conservation. Ça permet d'augmenter notre conservation, la protection de la biodiversité. Donc, je tiens à rassurer les gens, là, on n'oublie pas du tout le concept de conservation. C'est justement ce qui vient nous diriger. C'est un des grands objectifs qu'on a à travers le projet de loi.
Mais il y a quand même des critiques. Je voyais une lettre ouverte, là, ça date de quoi? Il y a un mois et des poussières de certains groupes, entre autres l'Action Boréale, qui disent « on nous passe un sapin ». Il y a d'importants reculs environnementaux avec ce projet de loi-là. Est-ce qu'on se dit, bon, ben ça, ce sont des groupes de gauche qui voudraient qu'on touche absolument pas à la forêt puis qu'on fasse pas d'économie avec la forêt? C'est comme ça qu'on le voit un peu, que c'est un groupe qui serait juste jamais d'accord avec n'importe quoi qui est bon pour l'économie puis qui touche un peu à la forêt?
Non, mais en fait, moi, j'ai rencontré ces groupes, plusieurs groupes. En fait, on a fait des tables de réflexion sur l'avenir de la forêt. Là, je nous ramène il y a plus d'un an. Suite au feu de forêt de 2023, il y avait besoin de revoir comment on faisait les choses en forêt pour justement s'assurer de voir nos forêts traverser les changements climatiques, traverser les difficultés. Et ça aussi, c'est un pas important, j'en ai pas parlé, mais on vient adapter notre façon de faire de la sylviculture, là, un grand terme là, pour parler du reboisement, mais aussi pour intégrer des concepts pour aider les forêts à traverser les changements climatiques. Donc, on intègre des choses importantes qui sont demandées par les groupes environnementaux, notamment le concept de conservation, la zone de conservation va venir aussi sécuriser de la conservation.
Mais pourquoi ils sont pas contents?
Mais ils demanderaient qu'on ait l'ensemble du territoire presque qui soit en conservation. C'est certain que quand on a des volontés de continuer d'avoir des activités économiques dans nos régions, moi, je me déplace partout, les gens veulent continuer d'avoir une job qui est payante dans des régions. Fait qu'on, nous, notre objectif comme gouvernement, c'est de trouver cet équilibre-là entre la conservation et les activités économiques pour les gens de nos régions. Puis c'est pour ça qu'on vient faire ces changements-là à travers le projet de loi.
Vous êtes aussi ministre des Ressources naturelles. Est-ce qu'il y a d'autres ressources naturelles sur lesquelles vous planchez à l'heure actuelle pour dire hey, « ça va être ma prochaine réforme pour aider justement le Québec au niveau économique? »
Ah bien, c'est certain. On se lance en politique. On veut changer des choses, améliorer des choses. Puis je suis fière de ce que j'ai fait parce que comme ministre de Ressources naturelles, forêt, je pense qu'il y a peu de gens qui ont réformé ces grands pans du patrimoine collectif québécois-là aussi rapidement. En un an, là, j'aurais fait forêt, mine. C'est certain qu'il y a plusieurs autres volets sur lesquels je peux travailler. Trump et le contexte économique là, nous amènent à se dire bien, il faut concentrer notre attention sur ce que j'ai fait comme changement à mine, ce que j'ai fait comme changement, ce que je suis en train de faire comme changement pour le secteur forestier. Puis on va voir qu'est-ce qui se passe ensuite parce que il est certain qu'un contexte comme celui-ci, c'est difficile pour les régions, c'est difficile pour l'économie du Québec. Donc, on va commencer par faire ces changements-là, bien s'assurer que les changements soient implantés dans nos régions pour que ça fonctionne avant de passer à autre chose.
Le gaz naturel, je sais qu'on en parle beaucoup dans la campagne fédérale. C'est-tu quelque chose que vous regardez?
Gaz naturel, collègue Christine Fréchette et moi, ben, on a, nous, un moratoire qui a été mis là, au Québec pour l'exploitation du gaz, du pétrole. On demeure ouvert comme gouvernement, par exemple, à un GNL ou à d'autres projets, à regarder chaque portion de chaque projet pour voir si c'est-tu intéressant pour le Québec, pour les Québécois. Pour l'instant, on n'a pas de projet réel et concret sur la table, mais ça, sécuriser nos approvisionnements, ça demeure une préoccupation qu'on a, puis c'est important pour les citoyens aussi.
Madame Blanchette-Vézina, en terminant, dans le contexte qu'on connaît actuellement avec la guerre économique des États-Unis, à quel point c'est important de brasser la soupe un peu dans ce cas-ci avec le régime forestier?
C'est plus urgent que jamais. On travaillait déjà dans un contexte pour la filière forestière qui était difficile. Avant même que Trump arrive au pouvoir, il y avait déjà le conflit du bois d'œuvre, des tarifs qui étaient déjà présents. Puis on sait que ces tarifs-là vont augmenter. Or, Trump, par le conflit du bois d'œuvre cet été. Alors, il était vraiment nécessaire d'aller rapidement pour ajuster des choses, avoir un régime qui est plus agile, plus réactif, la tarification aussi qu'on va venir revoir, garder une tarification qui est juste pour les citoyens du Québec, qu'on ait des sommes qui sont équitables pour les ressources naturelles qui nous appartiennent, mais qu'il y ait une tarification qui est plus dynamique en fonction du marché. Oui. Alors, ça va venir aider grandement la filière forestière puis nos régions du Québec.
Maïté Blanchette-Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des forêts ici au Québec. Merci infiniment d'être passé.
Ça m'a fait grand plaisir. Merci
de l'invitation. Bon jeudi, bonne journée.
Merci, vous
à vous. C'est pas juste petit rappel comme ça, c'est pas parce que c'est fini pour le Rock'n'Ball, OK? Félicitations à Thomas qui a gagné le concours Rock'n'Ball, que vous ne pouvez pas gagner sur nos ondes des billets pour Linkin Park à Montréal. Restez à l'écoute du matin au soir et allez voir sur la page Facebook, il y a un concours pour aller voir Linkin Park justement à Montréal. Quoi de mieux pour commencer cette journée ensoleillée que In the End?